Liturgie de la parole de ce jeudi, 3 juillet 2025, jeudi de la 3e semaine du temps ordinaire, année impaire. Parce que tu as vu Thomas, tu as cru. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Thomas, apôtre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour où nous célébrons l'apôtre Saint Thomas, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de reprendre courage. Fais que nous ayons la vie en comprenant à notre tour que Jésus-Christ est Seigneur, lui qui vit et règne pour le siècle des siècles. Amen.
Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19 au verset 22. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille des dieux, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans les seigneurs. En lui, vous êtes vous aussi des éléments d'une même construction pour devenir une demeure des dieux par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
Au 20e chapitre du 24e au 29e verset. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: Si je ne vois pas dans ses mains la marque de clou, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que la porte était verrouillée, et il était là au milieu d'eux. Il dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas lui dit alors: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, aujourd'hui nous célébrons la fête de Saint Thomas, apôtre, un apôtre exceptionnel, atypique, très original. Thomas, un homme très courageux. On se rappelle que lorsque Jésus devait aller à Béthanie, lorsque il a reçu le message de la maladie de Lazare, les apôtres hésitaient parce que l'ambiance à Jérusalem lors du dernier voyage n'était pas tellement une belle ambiance. C'était tumultueux. C'est comme si on voulait déjà en finir avec Jésus. Alors, ils hésitaient, ils ne voulaient pas que Jésus aille à Béthanie. Mais Thomas a dit: Allons-y. Allons-y. S'il faut mourir, nous allons mourir avec lui. Il est courageux. Ce n'est pas un hypocrite. Il dit ce qu'il pense. Il ne parle pas pour faire plaisir, mais il exprime ses convictions. Un homme qui dit clairement, qui dit à haute voix ce que peut-être certains pensent au fond de leur cœur. Thomas n'était pas le seul à émettre quelques doutes sur la résurrection. On sait que en Matthieu 28, de 16 à 20, lorsque les apôtres ont répondu au rendez-vous de Jésus en Galilée, eh bien, certains tergiversaient quand il était avec eux. Quand il leur apparut, certains doutaient, certains tergiversaient. Mais personne n'a dit clairement que Il avait des hésitations, il tergiversait, personne. Mais Thomas l'a dit, clairement. Ce n'est pas un hypocrite, c'est un homme qui est très courageux, qui exprime ses convictions avec une grande liberté intérieure, mais qui est aussi objectif, parce que devant l'évidence, il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». La foi de Thomas, c'est la foi d'une personne, bien sûr, qui doute. C'est sans doute les côtés négatifs de Thomas, mais c'est la foi de quelqu'un qui est en quête de la vérité, mais alors la vérité enracinée dans des convictions qui sont solides. Voilà pourquoi il dira à la fin de cet évangile, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pierre avait dit à Jésus, « Tu es le Christ », c'est-à-dire le Messie. Mais Thomas ira plus loin, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc, il a pratiquement résumé l'essentiel de la foi de l'Ancien Testament. Où Dieu est Seigneur et Dieu. Il est Adonai, Seigneur, et Elohim, Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Aujourd'hui, en célébrant la fête de Thomas, nous voudrions redécouvrir les vertus qu'incarne cet apôtre. C'est un homme qui, déjà à l'époque, essaye d'éclairer sa foi par la raison. C'est vrai, on a dit que le Seigneur est ressuscité, mais cela ne suffit pas. Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Et puis, ce que Thomas cherche, ce n'est pas le Messie auréolé par la gloire de la résurrection, mais il cherche le Messie qui porte encore les traces de la passion. Il ne dit pas, si je ne vois pas la couronne du ressuscité, je ne croirai pas. Il dit tout simplement, si je ne vois pas la marque de clou, je ne croirai pas. Et si je ne mets pas mes mains à l'endroit des clous, je ne croirai pas. Donc pour lui, le Christ, bien que ressuscité, reste pour lui ce Christ qui a souffert avec les gens et qui souffre pour les gens. C'est ça sa conception un peu, celle de Thomas. Les jours de la résurrection, il ne cherche pas le Christ glorifié, le Christ qui porte une tunique et qui resplendit la lumière, mais il cherche le Christ qui porte encore les marques ou les traces de sa passion. Ça, c'est la foi de Thomas. Il n'a pas oublié que le Messie est un Messie crucifié. Notre Messie est un Messie crucifié. Parfois, nous oublions cela. Il est crucifié. Il porte encore les empreintes de la passion, bien que ressuscité. Donc, c'est un Messie qui est proche de tous ceux qui sont blessés dans leur cœur. Les blessures de Jésus, qui demeurent, même s'il est ressuscité, nous rappellent les blessures intérieures de ceux qui sont malmenés, maltraités, à ceux qui sont tout simplement blessés dans leur cœur à cause des injustices, dans des milieux familiaux, dans des milieux professionnels, sans parler des victimes de la guerre, ceux qui sont dans des camps de réfugiés, des malades, des prisonniers. Chacun porte des blessures intérieures. Des blessures qui peut-être ne passeront jamais. Des blessures qu'on n'oubliera jamais. Il y a des blessures qui restent. Imaginez celui qui t'a fait beaucoup de mal, au point de perdre votre emploi. Imaginez celui qui peut-être a tué l'un des membres de votre famille, pour ceux qui nous suivent dans des territoire occupé, là où il y a la guerre, imaginez cela. Vous êtes blessé dans votre cœur et c'est difficile d'oublier. Rappelez-vous de ces blessures de Jésus. Ces blessures de Jésus que Thomas et d'autres apôtres ont contemplées. Les blessures de Jésus, c'est l'expression de son amour infini pour nous. Il nous aime même si nous sommes infidèles. Il nous aime même si nous nous méconduisons. Lui, il nous aime. Et les blessures que vous portez dans vos cœurs, que nous portons dans nos cœurs, qui peut-être pourraient développer la haine à l'égard d'autres personnes, à l'égard de nos bourreaux, devraient plutôt nous rappeler tout simplement le pardon que Jésus a donné à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il mourra sur la croix. Et Jésus a eu ce courage-là de pardonner. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En ce moment-là, il est déjà blessé. Blessé par la couronne d'épines, blessé par les coups, les clous au niveau de ses pieds, au niveau des mains. Il est déjà blessé. Il voit ses blessures, il saigne, il a mal, mais il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme cela que nous devrions faire, en pensant à nos blessures, des blessures intérieures. L'unique chose que nous pouvons dire, c'est tout simplement, comme Jésus, pardonne-leur, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Au lieu que ces blessures nous révoltent, au lieu que nos blessures intérieures nous poussent à la haine, à la vengeance, la rancune, les blessures, nos blessures intérieures devraient nous rappeler celles de Jésus, qui, bien que blessé, a continué à aimer, et il a aimé jusqu'au bout. Demain, nous le disions, c'est celui qui éclaire la foi par la raison. Aujourd'hui, parfois, la raison est sacrifiée. Seulement la foi. La foi vraiment aveugle et aveuglante. Et ça fait parfois des dégâts énormes. Des dégâts énormes. Comme celui qui n'a pas assez de carburant. Mais il dit, je vais quand même aller, je vais arriver par la grâce de Dieu. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi doit être éclairée par la raison. Et la foi doit nous pousser à l'engagement. La foi, ce n'est pas croiser les bras et attendre tout de Dieu. La foi, c'est croire que je peux faire déplacer les montagnes. C'est ce que Jésus dit dans les évangiles. Si vous avez la foi, il ne dit pas que vous allez fermer les yeux, Dieu vous donnera tout. Ce n'est pas ça, avoir la foi. Pour Jésus, avoir la foi signifie être capable de déplacer les montagnes. Dire à la montagne, quitte là où tu es, va de l'autre côté. C'est-à-dire être capable de s'engager avec une force surnaturelle qui vient de Jésus pour transformer votre vie, pour transformer la vie des autres, pour transformer les pays, pour transformer l'humanité. C'est ça la foi. La foi est transformante, est transformatrice. Elle nous pousse à transformer notre propre vie et celle des autres. Et la foi de Thomas est un peu cela. C'est une foi de quelqu'un qui est très engagé dans la recherche de la vérité. Il doute, nous n'allons pas les copier sur ce point-là, mais il cherche la vérité de façon laborieuse et il arrive à une conclusion intéressante, mon Seigneur et mon Dieu. Comme Thomas, nous devons dire cette profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est Seigneur, il est Dieu. Et les deux sont très très importants, ces deux aspects de la vie de Jésus. Il est Seigneur, c'est-à-dire celui qui doit régner dans nos cœurs, dans nos vies. Celui qui doit être la priorité des priorités. Mais il est aussi Dieu. En tant que Dieu, il est tout-puissant. Il est omniscient. Il est tout, il peut tout. Il est souverain. Et donc, en tant que Seigneur, nous l'accueillons dans nos cœurs pour que il puisse régner dans nos cœurs, régner dans le monde. Et en tant que Dieu, nous nous confions en lui pour qu'il puisse accomplir ses merveilles dans notre vie. Parce que Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible pour Dieu. Et Jésus n'est pas seulement Seigneur, il est aussi Dieu. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Ephésiens 2, des 19 jusqu'à 22, Paul nous rappelle que nous faisons partie de l'Église qui est comme une construction. Une construction dont les fondations sont constituées des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire chacun de nous est dans l'Église comme une brique. Comme Paul considère l'Église comme étant une construction, et donc chacun est une brique. Soyez ne fût-ce qu'une petite brique qui soutient cet édifice que l'Église. Et pour ce faire, il faut avoir la foi de Thomas. Une foi qui est très très solide. Une foi qui vous pousse à vous engager pour transformer votre propre vie et celle des autres. Que c'est Jésus qui est Seigneur, règne dans vos cœurs. Que c'est Jésus qui est Dieu, vous apporte des grâces dont vous avez besoin. Parce qu'il est Dieu, rien n'est impossible pour lui. Ce que vous croyez impossible pour vous ne l'est pas pour Jésus. Accueillez donc Jésus comme Seigneur, qu'il règne dans vos cœurs, dans vos vies, dans notre monde et dans notre pays. Accueillez-le comme Dieu pour qu'il puisse transformer votre vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, des Pères et des Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Choisi. Le Dieu que j'aime a fait jaillir en moi.